Saint-Denis.
Les flammes de centaines de cierges disposées en buissons autour des piliers projetaient leur lueur mouvante sur les tombeaux des rois. Les longs gisants de pierre semblaient parcourus de frémissements, comme en rêve, et l'on eût dit une armée de chevaliers endormis par magie au milieu d'une forêt en feu. Dans la basilique de Saint-Denis, nécropole royale, la cour assistait à l'ensevelissement de Philippe le Bel. Faisant face à la nouvelle tombe, toute la tribu capétienne, en vêtements sombres et somptueux, se tenait alignée dans la nef centrale. Prince du sang, père laïque, pères ecclésiastiques, membres du conseil étroit, grand aumônier, connétable, dignitaire. Accompagné de 5 officiers de l'autel, le souverain maître de la maison du roi s'avança d'un pas solennel au bord du caveau où le cercueil était déjà descendu. Il jeta dans la fosse le bâton sculpté qui était l'insigne de sa charge et prononça la formule qui marquait officiellement le passage d'un règne à l'autre. « Le roi est mort ! Vive le roi !» L'assistance aussitôt répéta « Le roi est mort, vive le roi !» Et ce cri de sang poitrine répercutait de travée en travée, d'ogive en ogive, alla rouler longuement dans les hauteurs des voûtes. Le prince, aux yeux fuyants, aux épaules étroites et à la poitrine creuse qui en 7 minutes devenait le roi de France, éprouva une étrange sensation dans la nuque, comme si les étoiles venaient d'y éclater. L'angoisse le saisit, au point qu'il craignit de tomber en défaillance. À sa droite, ses deux frères, Philippe, comte de Poitiers, et Charles, qui n'avait pas encore d'apanage, regardaient intensément la tombe. À sa gauche se tenaient ses deux oncles, le comte de Valois et le comte d'Évreux, deux hommes de forte carrure. Le premier avait franchi la quarantaine, le second en approchait. Le comte d'Évreux était assailli d'images anciennes. « Il y a 29 ans, nous étions 3 fils, nous aussi, à cette même place, devant la fosse de notre père. » Et voilà maintenant que le premier de nous s'en va. La vie est déjà passée. Son regard se posa sur le gisant immédiatement voisin, qui était celui du roi Philippe III. Père, pria intensément Louis d'Évreux, accueillez dans l'autre royaume mon frère Philippe, car il vous a bien succédé. Plus loin se trouvait la tombe de Saint-Louis et les lourdes effigies des grands ancêtres. De l'autre côté de la nef, on apercevait les espaces vides, qui s'ouvrirait un jour pour le jeune homme, dixième à porter le nom de Louis, qui accédait au trône, et après lui, règne après règne, pour tous les rois futurs. Il y a de la place encore pour beaucoup de siècles, pensa Louis d'Évreux. Monseigneur de Valois, les bras croisés, le menton haut, observait toute chose et veillait à ce que la cérémonie se déroulât comme elle devait. « Le roi est mort ! Vive le roi !» 5 fois encore le cri retentit à travers la basilique, à mesure que défilaient, jetant leurs bâtons de fonction, les maîtres de l'autel. Le dernier bâton rebondit sur le cercueil, et le silence tomba. Louis X fut pris à ce moment d'un violent accès de toux qu'il ne put, quelque effort qu'il fît, dominer. Un flux de sang lui vint aux joues, et il demeura une bonne minute secoué par sa quinte, comme s'il allait cracher l'âme devant la tombe de son père. Les assistants se regardèrent, les mitres se penchèrent vers les mitres et les couronnes vers les couronnes. Il y eut des chuchotements d'inquiétude et de pitié. Chacun pensait « Et si celui-là aussi mourait dans quelques semaines ?» Parmi les pères laïcs, la puissante comtesse Mao d'Artois, haute, large, coupe rosée, observait son neveu Robert dont les mâchoires émergeaient au-dessus de tous les fronts. Elle se demandait pourquoi la veille, il était arrivé à Notre-Dame, au beau milieu de l'office funèbre, la barbe parasée et crottée jusqu'aux reins. D'où venait-il ? Qu'était-il allé faire ? Dès que Robert apparaissait, il y avait de l'intrigue dans l'air. Il semblait fort en cours ces temps-ci, ce qui ne laissait pas d'inquiéter Mao, elle-même tenue en défaveur depuis que ses deux filles étaient enfermées l'une à Dourdan, l'autre à Château-Gaillard. Entouré des légistes du conseil, Enguerrand de Marigny, coadjuteur du souverain qu'on enterrait, portait un deuil de prince. Marigny était de ces rares hommes qui peuvent avoir la certitude d'être entrés en leur vivant dans l'histoire, parole qu'ils l'ont faite. « Sire Philippe, mon roi, songeait-il en s'adressant au cercueil, tant de journées où nous avons travaillé côte à côte, nous pensions de même en toutes choses, nous avons commis des erreurs, nous les avons corrigées. Dans vos derniers jours, vous vous êtes un peu éloigné de moi parce que votre esprit était affaibli et que les envieux cherchaient à nous séparer. Je vais être tout seul à l'ouvrage maintenant. Je vous jure de bien défendre ce que nous avons accompli ensemble.